Bienvenue à mon ciné-balado épisode spécial In Cold Light, ou À froid, en version française. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut!
Donc, on reçoit dans cet épisode spécial le réalisateur québécois Maxime Giroux, qui nous avait donné Norbourg il y a quelques années. Et là, s'en va faire un film tourné en anglais, un film canadien. En partie coproduit aussi avec les Américains.
Ouais, et Québécois. Là. Canado-Québécois, là, il y a tout le temps un peu de tout le monde là-dedans. In Cold Light, un thriller criminel qui raconte l'histoire de Ava, qui, à peine sortie de prison à cause de trafic de drogue, ben, en fait, elle tente de reconstruire et de retourner là où il était, ou là où elle était, à la tête de son petite organisation là, dans l'Ouest canadien. Sauf qu'éventuellement, elle va être témoin d'un meurtre brutal qui va la contraindre à fuir et tenter de sauver sa peau dans tout ça. Fait que c'est pas un film de vengeance puis de mitraillage à l'infini, mais plus de je sais pas comment dire, un peu de petit... quand même petit crime et meurtre et un peu garde-gang et devoir se
sauver. Sur fond de drame familial aussi.
Exactement. On doit le dire. C'est sûr que ceux qui baignent, si les enfants baignent dans la criminalité, ben ça affecte le portrait familial et la vision que les parents ont de leurs enfants.
Et au générique, on a quand même des acteurs américains. Oui. Donc, Maïka Monroe, quand même, une actrice qui est très en vogue, surtout depuis Long Legs.
Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais découvert dans It Follows il y a comme 12 ans, mais ouais, ça a continué. Et là, récemment, et elle va être dans le prochain...
Colin Hoover
dans quelques semaines. Fait que oui, un beau point dans sa carrière. Et celui qui joue son père, c'est pas rien, c'est Troy Kutcher. Ouais. Qui est un acteur sourd-muet qui a gagné un Oscar pour Coda il y a quelques années. Il était aussi dans Primate il y a...
quelques semaines,
un mois. Fait que on discute avec Maxime justement du processus, le fait qu'il y a un peu d'investissement américain, d'aller chercher ces comédiens américains. Ben, comment il s'est trouvé avec ce projet-là, parce que c'est pas un scénario de lui. Puis justement, le casting, comment ça fonctionne, le tournage, les équipes, la dynamique sur le plateau entre une production, disons, plus canadienne, anglo, mais avec ses collaborateurs franco et des acteurs américains. Aussi de son parcours de cinéaste, pigiste un peu, si on veut, là. De quoi qu'on parle, évidemment, du langage, travail du langage des signes, de l'inclusion de Troy dans tout ce projet-là.
Oui, ça a donné vraiment lieu à une belle conversation. Faut dire que Maxime aussi a l'occasion d'aller rencontrer des gens à Los Angeles pour peut-être faire un film hollywoodien. Fait qu'il nous navigue à travers tous les méandres de ça, qui est vraiment intéressant, qui correspond quand même à beaucoup de clichés qu'on s'en fait.
Tout à fait.
Qui sont vrais. Et puis, fait que voilà. Fait que je pense que...
Ouais, c'est ça. Et In Cold Light prend l'affiche vendredi, le 27 février, au Québec. Il est disponible en version française, en version anglaise originale et même en version avec sous-titres français. Une sortie large pour ce thriller-là, qui est un bon film, comme il décrit lui-même, qu'il y a une belle esthétique unique. Oui. C'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé trop influencer par le Goodfellas et toute l'aura des films criminels, puis qui est plus allé avec Sarah Michera, l'excellente directrice photo, un peu à leur façon, puis leur vision de ça.
Il y a un côté très indie, tourné en super 16 mm aussi, fait qu'on voit le grain de la pellicule, justement, c'est sale un peu.
Exactement, ouais.
Oui, quand même, un visuel assez intéressant, puis bien porté honnêtement par le duo Monroe-Kutcher, qu'on croit vraiment, c'est un bon coup de casting, honnêtement.
Ouais.
Alors, sans plus tarder, voici la conversation avec Max Giroux. Bienvenue à mon ciné-balado, épisode spécial In Cold Light. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton et de notre invité spécial, le réalisateur Maxime Giroux, qui nous avait donné il y a quelques années Norbourg et là qui nous offre un film tourné en anglais.
Est-ce qu'on dit Maxime Giroux ou Giroux?
c'est une bonne question, mais Giroux, c'est une bonne question. Hein,
t'es allé à Tribeca, c'est à New York, ça?
Oui, je m'en souviens plus. On dirait qu'il y a plein de choses que je me souviens plus de ma carrière. J'essaie de... Mais Maxime Giroux, je sais pas. La prochaine fois, je vais penser à vous.
Puis quand prononce le X, c'est moins pire que Villeneuve. Denis Villeneuve.
Newtown.
Ça m'arrive tellement souvent, là, tu sais, parce que nécessairement, parce que je viens du Québec, ils vont tout de suite me parler. J'étais en Californie au mois de janvier, puis ils me parlent tout de suite de Denis Villeneuve. Oh, yeah. Puis à chaque fois, je suis comme, what? Où? Là, oh, yeah, yeah. Ils sont pas capables de dire son nom. Ouais, ils sont pas capables. Mais c'est fou à quel point c'est une. En tout cas, bref. Oui, donc bonjour.
Mais, bonjour.
Maxime Giroux, ouais. Mais. Il pense que je suis une femme, souvent, des Maximes.
Ah ouais, okay.
C'est souvent des femmes. Ouais.
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 Mais il doit faire le saut quand il te voit. Finalement.
Un peu, oui, 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 tout à fait.
C'est ton cinquième long métrage, quatrième?
Je pense mon sixième.
Sixième,
oui. Je pense, oui. Demain, Jour pour Jonathan. Après ça, Félix et Mira, La Grande Noirceur, Norbourg, et là, ouais, six.
Cold Light. Ouais, ah. Ouais. Puis, film canadien. Il est oui. Coprod Canada-États-Unis, Canadien-Québec?
Techniquement, c'est Sodec Téléfilm, mais il y a aussi eu d'argent des Américains.
OK.
Ouais. Donc, XYZ. Oui, c'est ça. Il y a d'argent américain là-dedans. Mais c'est pas. C'est des producteurs. C'est un peu compliqué, là, tout ça, parce que tu peux pas produire. Des Américains ne peuvent pas donner d'argent directement en tant que... Il faut que ça passe par de la distribution, de la vente, whatever.
Okay.
C'est un peu complexe. Okay. Tu peux coproduire avec la France, la Belgique, tout ça, mais pas nécessairement avec les Américains.
Ouais, okay. Okay.
Mais ils peuvent donner d'argent d'une autre façon.
C'est ça. Il y a des professionnels qui aident à...
Oui, je comprends rien.
C'est pas là que t'entres en jeu. Mais c'est pas un scénario de toi.
Non.
Patrick...
Whistler?
Exactement.
Comment t'es tombé sur ce projet-là, dans le fond?
En fait, c'est Patrick Whistler et producteur à Toronto, Mike McMillan, ainsi que producteur à Montréal, Yannick Letourneau, qui avaient ce projet-là. Et à un certain moment donné, j'ai reçu un appel. Je n'ai pas été le premier à être appelé, là, je pense pas. Il y a des projets comme ça là, que tu sais que des scénarios...
Ça sont prenés un petit
ouais,
peu.
Exactement.
Tu sais que c'est ça se passe ces temps-ci.
Exactement. Puis, ils m'ont fait lire un scénario. Puis c'était une occasion pour moi de faire un genre de cinéma totalement différent. Et je pense que ce projet-là, je l'ai eu avant Norbourg. Pendant Norbourg. Okay. C'était comme c'est ça, c'était pas après Norbourg, c'était vraiment comme fait que j'avais encore ce désir là je pense de faire du cinéma de genre, tu sais, avec Norbourg c'était un certain genre, là avec In Cold Eye qui est plus un trailer policier, j'étais encore dans une passe de j'avais envie de d'essayer d'autres choses.
Puis as-tu le jeune cinéaste enfant à toi qui a quelque chose de hot à être dans le trailer criminel et tout? Ça a-tu coché plein de cases de un jour je vais faire un film avec des guns puis de la drogue?
Bizarrement non. Je sais pas pourquoi, c'était pas un rêve quand j'ai étudié en cinéma ou même avant de faire du cinéma américain. C'était pas. En fait, moi, je voulais. J'aurais voulu être un skateboarder peut-être, mais j'étais pas très bon. Je voulais être un drummer, je jouais du drum, mais j'étais pas très bon. Puis à un moment donné, je suis devenu réalisateur parce que t'as plein de gens qui t'entourent puis qui peuvent te rendre meilleur. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Et j'étais plus dans le vidéoclip, la musique que le cinéma. Fait que je te dirais que j'étais pas vraiment ancré dans un cinéma hollywoodien quand j'étais jeune. Star Wars, je connais pas ça tant que ça. Je connais ça, je les ai vus, mais j'étais pas le gars qui trippait là-dessus. En fait, moi, ma découverte du cinéma, c'est quand j'ai compris qu'il y avait un cinéma européen qui existait. J'avais 17 ans. J'ai comme vu des films de Emir Costa Rica ou des trucs comme ça. Puis là, j'ai fait « Ah, le cinéma commence à m'intéresser. » Donc, pour moi, quand est venue la chance de faire un film de gangster, trailer, c'était pas un rêve de jeunesse comme Denis Villeneuve, justement, avec un film de science-fiction ou tout ça.
C'est pas ton film pont vers les États-Unis.
Là. Non, vraiment pas. Vraiment, ça a été vraiment une opportunité de m'ouvrir des portes justement sur quelque chose que je ne connaissais pas et qui n'était pas d'emblée ce que j'étais moi, comme cinéaste.
Tu as quand même des grosses pointures, des noms très connus. Malcolm Monroe, une actrice qui est vraiment en vogue depuis quelques années. Comment tu as mis en place tout ce casting-là? Est-ce que c'était un souhait dès le départ avec elle et Troy Kotcher?
Ça a été vraiment un apprentissage. Je savais que pour un film québécois-canadien, petit film, on est des petits films pour les Américains, pour avoir entendu parler Philippe Falardeau, tu sais, de vive voix, il m'en avait parlé, les problèmes que t'as de caster des acteurs américains. C'est très complexe parce qu'ils ne veulent pas nécessairement s'engager au cas où qu'il y ait un...
De quoi de mieux.
Il y a un gros budget, une télésérie aujourd'hui. Beaucoup, ils veulent des comédiens, ils veulent être dans des séries plus que dans des films aujourd'hui.
Ah ouais, okay.
Fait qu'ils ne veulent pas signer. Puis toi, tu as besoin de signer pour avoir l'argent puis aller tourner dans 2 mois, mais eux, ils veulent signer une semaine avant le tournage.
OK.
Fait que c'est très complexe. Puis en plus de ça, si tu as d'argent américain, ben tes investisseurs américains te disent telle actrice, elle est connue, mais elle n'a pas. Elle a juste 1 million de followers sur Instagram,
ouais.
C'est pas assez.
Ah ouais, okay, je savais pas qu'on était... sur des grosses productions, je savais qu'il pouvait avoir ce facteur-là. C'est pas pour rien qu'on voit The Rock dans tous les mêmes genres de films, mais je pensais pas que même dans le indie, ça venait affecter aussi.
Ouais, puis ils ont vraiment des... Je sais pas comment ils font ça, mais un genre d'algorithme avec... où est-ce que telle actrice, ça va te donner... on va juste pouvoir te donner 1 million de dollars. Telle autre actrice, c'est 2 millions de dollars. Telle autre actrice, ça vaut même pas la peine. T'sais, fait que finalement, tu cherches une actrice de plausible pour ton film de tel âge, il n'y en a pas 46 000. Il n'y en a pas, vraiment pas, en fait.
Okay.
Et là, on te propose des noms, puis là, tu fais comme... Puis on te propose des noms, des fois, là, ça n'a pas rapport. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, un moment donné, il y avait une comédienne que j'adore, que je trouve qui est devenue dans Substance.
Oui. Ouais. Margaret Qualley.
Oui. Tu sais, elle, ça serait cool, tu sais. Puis, on n'était pas rendu au point de donner le scénario, mais j'ai dit, mais non, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, je la trouve très, très bonne, mais ça ne fonctionne pas pour être ce que je. Pour ce film-là. Mais. Eux, c'est pas comme ça qu'ils pensent. Je veux dire, exactement. Fait que là, il faut que tu fasses non. Puis là, finalement, il en reste plus beaucoup, mais Micah, elle pourrait être super. Tu sais. Là, t'espères juste que son agent va lire le scénario. Sûrement, ça va être son assistant en premier. Fait que là, l'assistant lit le scénario. Là, l'agent lit le scénario. Là, je parle du manager. T'as l'agence, là, admettons, CCA ou William. Là, je ne sais pas combien de gens qui lisent le scénario avant que ça se rende à elle. T'sais? Fait que c'est complexe.
Et long aussi.
Puis là, OK, elle veut te rencontrer. Fait que là, tu la rencontres via Zoom. Puis là,
fait que tu ne fais pas d'audition. Là.
Non, tu ne fais pas d'audition. Puis là tu espères que tu parais bien via Zoom. Là. Je veux dire, avec my big accent. Là, like the Denis Villeneuve accent, you know? Puis il parle mieux que moi. Mais tu sais, on a des accents. Fait que là, tu espères. Puis un moment donné, tu reçois une réponse. Puis OK, elle va le faire. Ah, ben cool, ça nous permet de... Là, on peut aller chercher quelqu'un d'autre. Là,
Qu'à ce moment-là... T'as ton financement quand t'es rendu à prendre les comédiens?
Ben nous, c'est ça qui est bizarre au Canada. On a déjà notre financement, oui. On a déjà le téléfilm Sodec, alors que aux États-Unis, ça, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai un autre projet aux États-Unis, c'est t'as pas d'argent tant aussi longtemps que t'as pas d'acteur.
Ouais.
Quand tu trouves un acteur, là, tu vas aller chercher l'argent.
Ouais, c'est pour ça que des fois, on entend parler « Hey, ils vont faire un nouveau film sur la vie de, je sais pas, Edgar Allan Poe avec... Paul Mescal, puis c'est comme, y a-t-il un scénario d'écrit? Non.
Exactement.
Juste comme, on a cette idée-là, on a ce gars-là, fait que là, on planche, puis...
C'est exactement.
Vous annoncez ça déjà, là, que brainstorm.
Moi, j'ai été approché par une grosse boîte que finalement, j'ai pitché, mais j'ai pas... le projet est annoncé, puis partout, là, tu sais, genre, c'est Mattel Film, là, tu sais, okay. C'était quoi?
Le film des Hot Wheels?
Non, mais il m'avait proposé Barney.
Ah ouais, OK.
Soit Barney, soit Jack in the Box. Puis au début, j'étais comme, pourquoi vous m'appelez? En fait, j'ai fait des zooms avec eux autres. Puis là, à un moment donné, c'est comme, je serais bien Barney, tu sais, parce que il voulait le faire à la genre Bing John Malkovich. J'étais comme, ouais, OK, intéressant, tu sais.
Okay.
Puis là, finalement, c'est A24, A24. Puis ils ont trouvé un réalisateur.
Ouais, ils ont leur écurie à eux.
Fait que là, il reste Jack in the Box. J'étais comme, Jack in the Box.
Ça, c'est la clown que tu tournes. Puis...
Qu'est-ce que je fasse avec ça? Finalement, je me suis ramassé à Hollywood, dans les d'un bureau, devant le vice-président, puis comme dans le film. Là. Puis, puis j'ai pitché une idée, puis ça n'a pas marché. c'est comme ça.
Fait que t'es fly-in pour Hollywood pour un 15 minutes de rencontre.
Mais j'avais passé des étapes avant. Ouais. J'avais pitché avec des exécutifs qui aimaient le projet, puis... Mais tu sais, c'était surréaliste. Je m'attendais pas à être là. Tu sais, puis j'aurais dit quand je suis rentré, là, I don't know what, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. I just want to go skate. There's a skate park there. mais parce que je suis
à Venice Beach.
Oui, exactement. Mais c'était pas loin en plus.
Mais toi qui ne rêvais pas nécessairement d'être cinéaste, puis de trouver. T'es-tu intimidé ou t'es juste, comme tu dis.
Non, je m'en foutais un peu parce que j'ai rien à perdre. On est vraiment dans une bonne position, les Québécois, quand on arrive. Puis, je veux dire, Denis puis Jean-Marc Vallée, ça n'a rien à voir avec moi. Eux, ils sont arrivés par la grande porte. Moi, je ne rentre pas par la grande porte. C'est beaucoup plus difficile. Denis est rentré et Jean-Marc, ils sont rentrés par la grande porte dans le sens que Denis a été nommé aux Oscars. Ouais. Il est arrivé avec un DOP extraordinaire pour Prisoner, qui était, mon Dieu, son DOP, que j'ai oublié son nom, un dieu d'Hollywood.
Roger Deakins.
Oui, Roger Deakins, exactement. Tu sais, fait que quand t'as Roger Deakins, t'as des comédiens qui viennent avec. Tu sais, je veux dire, il est arrivé par la grande porte de Denis, puis en plus, il a du talent extraordinaire, puis il est gentil, puis tout ça. Moi, c'est pas la même chose. Fait que, tu sais.
Pas très gentil.
Non, je suis moins gentil un peu, c'est vrai. Et puis j'ai aussi une feuille de route qui est vraiment pas celle de Jean-Marc ou de Denis, ça n'a rien à voir. Mais quand même, je me suis retrouvé là, c'était quand même le fun, c'était drôle, tu sais. Puis, mais en fait, on parlait de ça parce qu'il annonce ses projets. Puis il n'y a même pas. Eux, ils ont 6 pages. Puis c'est juste des photos, presque. Je okay. comprends. Ils m'ont envoyé un deck, c'était 3 paragraphes. Tu sais, le jouet. On veut un film d'horreur. Tu sais, puis je ne sais pas si tu comprends, mais c'est tout. Puis là, toi, tu arrives avec un genre de 30 pages de script.
Ouais, c'est plus un squelette.
Un squelette pas, avec plein de photos, tout ça. Puis ils ont rien.
Puis là, ils auditionnent tout le monde, puis ils vont prendre le concept.
Exactement. Puis je pense qu'ils n'ont même pas encore trouvé. Non, là,
ça se peut qu'il n'y ait pas de bonne idée à faire avec ça.
Ça se peut. Mais moi, je pense que notre idée était pas mal. Au début, j'avais pas d'idée, puis Mané, j'ai fait il faut que je trouve une idée quand même. On m'offre. De pitcher, n'importe qui irait. Là. Pourquoi je suis chez nous à dire j'ai pas d'idée, force-toi un petit peu. Tout ça pour dire que c'était une expérience.
J'imagine que même s'ils ne retiennent pas ton projet, si tu vas faire un pitch qui se tient, ton nom va rester dans l'eau peut-être pour d'autres projets ou pas. De
oui,
dire,
peut-être. T'sais. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a probablement 10 000 personnes qui passent par là par année. Ouais, j'en ai aucune idée, mais je veux dire, je suis pas le seul. Là, le projet se promenait. Là, c'est juste, c'était drôle quand j'ai reçu l'email de. Avec le logo Mattel, je pensais que c'était une joke. C'était
vraiment c'est un scam.
Je pensais que c'était un scam, puis on voulait faire un zoom avec toi. Puis la raison pourquoi ils m'ont, bizarrement, moi je pensais qu'ils avaient vu Norbourg, whatever, c'était La Grande Noirceur.
OK.
Puis c'est mon film le plus weird, tu sais, puis ils voulaient un film, ils voulaient quelque chose de weird, tu sais, c'est ça. Ouais.
Et pour drôle. Une courte light, donc c'est Maïka qui arrive en premier dans le projet.
Non,
c'était vraiment intéressant. Et là, est-ce que pour le personnage de Troy Kotsur, est-ce que c'était déjà écrit comme quelqu'un de malentendant ou ça a été changé?
Non, c'est ça. Premièrement, on trouve, tu sais, c'est une histoire aussi familiale, donc tu trouves le père, tu trouves le personnage principal qui est Maïka Monroe. OK, on va trouver un père après et un frère. L'agent de Maïka Monroe, parce que tout le monde se connaît un peu là-bas. Ouais. Hein? Fait que c'est comme, hey, avez-vous pensé à probablement qu'il était ami avec l'agent de Troy Kotsur, whatever, ou peut-être pas, mais il est arrivé avec une maudite bonne idée. Avez-vous pensé à Troy Kotsur pour faire le rôle?
Est-ce qu'il avait gagné son Oscar
oui,
à ce moment-là?
Il avait déjà gagné son Oscar, puis ça a tellement été une bonne idée que j'ai tout de suite, j'ai fait comme, wow! « Fuck, this is a great idea. Yes. »
Ça change toute la dynamique familiale. Tout, puis,
Et aussi, c'est pas évident d'aller chercher des messieurs de cet âge-là. C'est les plus compliqués à aller chercher.
Ah ouais?
À Hollywood, sont
en demande? Ou sont
casaniers, ils tournent plus dans grand-chose.
Ils tournent plus dans grand-chose. Les messieurs de certain âge prennent moins de risques, bizarrement. Okay. Puis au Québec, c'est un peu la même chose aussi. Okay. Je le vois dans le casting au Québec. Il y a plus de femmes aussi. La compétition est féroce pour des femmes. On le sait, là, d'un certain âge, c'est plus compliqué pour elles, malheureusement. Les gars, ont plus une fois qu'ils ont le statut, ils ont un peu de contrôle. Puis c'est plus compliqué d'aller chercher des...
Okay.
Fait que tout ça, ça s'emboîtait comme de façon parfaite. C'est-à-dire qu'il était libre, il avait du temps pour faire le film. Il voulait le faire. C'est un gars qui vient d'Arizona, il aime les chevaux. Il est parfait pour le rôle, j'adore sa gueule, j'adore son jeu, je le trouve charismatique. C'était tellement une bonne idée.
Mais est-ce que ça veux pas alourdir un peu le processus, là, de devoir dire, ben là, il va falloir que Micah apprenne le langage des signes, que d'autres personnages aussi, que...
Là, c'est la raison, je m'en souvenais plus, puis là, tu viens de me faire rappeler pourquoi c'est arrivé. Micah, sa mère, qui est malheureusement décédée, je pense, cette année, était prof de langage...
OK, ça s'invente pas.
Oui, de ASL, American Sign Language. Et donc, Micah... beaucoup grandi dans ce milieu-là. Sa mère n'est pas sourde et muette, mais elle a grandi dans ce milieu-là. Donc, pour elle, c'était assez facile d'apprendre. Non, c'était pas facile. Ça a été dur pour elle, je suis convaincu, mais...
Elle partait pas de zéro.
Exactement. Okay. Et elle avait sa mère pour l'aider. Elle a aussi pris des cours un petit peu plus, puis elle a été aidée par Troy aussi. Donc, tu sais, elle partait pas de zéro. Fait que le lien est là, en fait. Je m'en souvenais plus, mais c'est ça. Ouais.
Est-ce que, justement, toi qui finalement baignais moins dans la criminalité, dans les films criminels et tout, est-ce que là, une fois que tu as le scénario, tu es attaché, tout va, est-ce que tu t'inspires d'autres œuvres? Est-ce que volontairement, tu veux t'imbiber de trucs pour un peu faire des clins d'œil ou des choses comme ça? Ou l'inverse, tu veux avoir juste ta propre idée vierge à toi, tu sais?
Ouais, j'ai de la misère à... C'est bizarre à répondre à ça parce que, tu sais, je pense qu'on avec Sarah Micharan, la directrice photo, on s'inspire pas nécessairement de d'œuvres
précises.
Oui, précises, mais qui sont pas nécessairement dans le
gangster nécessairement.
Ouais, tu sais, hein, Paris Texas visuellement nous a plus inspiré que qu'un film de gangster. Mm. Oui, Scorsese, bien sûr, tu sais, Mean Street, 16 mm, grain, lumière de la ville, tout ça, ça nous a inspiré. Cazavet, un peu, tu sais, d'une certaine façon. Alors, Cazavet, c'est pas du tout... Tu sais, il en a fait des films avec des guns, mais c'est pas dans le genre de thriller comme on voit aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense qu'on est plus inspiré par des trucs old school qui sont pas nécessairement des thrillers policiers. Et je pense que ça peut être positif par moment et négatif par moment parce que les codes, on veut pas tout les connaître, ce qui fait en sorte que des fois, c'est pas nécessairement positif, puis des fois, c'est positif parce qu'on est naïf aussi dans tout ça. Mais ça dépend. Je sais pas si tu comprends ce que
ouais,
je veux
dire. Les deux côtés ont avantage. Si t'étais un féru de ce genre-là, ben, tu serais dans probablement un canal que tu serais plus capable d'en sortir puis de prendre des risques un
exactement.
Peu.
Exactement. Puis j'essaie de peut-être Normal, c'est un peu différent, mais j'essaie à chaque film que je fais de. Même s'il y a un. Tu sais, Félix et Mera, c'est un genre de film. La Grande Noirceur, c'est un genre de film. D'essayer de garder mon truc à moi, qui est un peu. Ça a l'air bizarre à dire, mais un peu maladroit. J'aime la maladresse, un peu, des fois. Ça marche pas toujours. Des fois, ma maladresse fonctionne pas, puis des fois, ma maladresse fonctionne bien. Puis il y a plein de cinéastes que j'admire qui sont maladroits. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'aime pas les cinéastes trop parfaits. Trop, tu sais, où est-ce que tout est bien rodé, puis c'est pas vrai, il y en a que j'aime, là, tu sais, il y a des traits... On parlait de Back to the Future, qui est un film parfait, puis... Mais en général, j'aime les cinéastes qui sont un peu plus Cazavets que la perfection de Spielberg.
Ben, ton désir d'être drummer, il y a aussi un peu ce côté-là. T'sais, en musique, tu as beaucoup l'énergie de maintenant, quand tu enregistres un album, dans la production, fait que tu as pareil dans ton tournage. Tu as ce que tu as prévu, puis qu'est-ce qui va arriver le jour même, puis des fois, j'imagine que.
Oui, puis. Il
faut que ça avance.
Oui, puis aussi, tu sais, le film a été tourné. Je pense qu'on est un petit peu. Rebelle, Sarah puis moi, et encore une fois, ça peut être positif et négatif, mais tu sais, on voulait pas faire des images léchées à la Netflix. Tu sais, il y a des très bons films qui le font très bien, mais moi, j'ai l'impression que je suis pas capable de faire ces films-là. Tu sais, fait qu'on mise sur d'autres choses, être un petit peu plus greedy, un petit peu plus sale, un petit peu plus tout croche. Je voulais tout croche ce film-là, tu sais, tout croche dans le bon sens, caméra un peu. Un peu comme le personnage, tu sais, un peu dans la fuite, mais dans l'instabilité,
Ben, je veux pas, c'est pas négatif, je dis positivement, mais un peu vite fait, bien fait, là.
Oui, oui, exactement, c'est ça, exactement. Parce que c'est l'état d'esprit du personnage. Elle peut pas rester en place. Puis moi, en tant que cinéaste, j'avais envie qu'on ressente ça dans le film avec ses qualités et ses défauts.
Avez-vous tourné à Calgary, ou dans quelle ville vous avez tourné?
On a tourné à Calgary, Ponoka, qui est pas loin de entre Edmonton et Calgary, dans un vrai rodéo, et à Montréal, bizarrement, parce que Sodec oblige, on est obligé de dépenser de l'argent au Québec.
Ouais, ouais.
Donc, il y a beaucoup d'intérieur, entre autres.
En studio?
Sur le bord de la métropolitaine. Hélène Hunt, c'est sur le bord, on entend des trucs passer, là, c'est ça.
Et quand on va tourner, justement, dans d'autres villes comme ça, Calgary ou Edmonton, ou plus loin... j'imagine que tu dois te déplacer avant le tournage pour te faire déjà une idée, ton repérage et tout ça? Ou...
Moi, c'est la partie que je préfère de faire des films, en fait. T'sais, autant Félix Émera, Norbourg un peu, même Norbourg, je suis quelqu'un qui adore l'architecture, j'adore les villes, j'adore la nature aussi, mais j'adore comment les villes se construisent, se font, puis... J'adore les ambiances. Et quand je fais de la recherche de location, ou c'est de la recherche aussi de qu'est-ce qui va être mon film, c'est mon plus grand fun. Donc, des mois avant, je prends plein de photos. La plupart des locations, c'est moi qui les trouve. Okay. Parce que pour moi, c'est des personnages. Ça fait partie de comment on raconte l'histoire. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui le font pas tant. C'est-à-dire qu'ils engagent des gens puis qu'ils arrivent...
Il y a beaucoup de second unit qui s'occupent de plein d'affaires.
Moi, ça, je comprends pas ça. En fait, je trouve que quand je fais ma recherche de location, quand je pars des semaines avant, puis tu sais, je suis allé plusieurs fois à Calgary, seul ou avec Sarah, j'apprends sur les gens qui sont là, j'apprends sur la ville. En fait, je vis. Je fais pas juste un film, j'apprends sur la vie, sur une autre vie, sur une ville, sur des gens, sur des cow-boys que j'avais des préjugés, que, encore une fois, les préjugés sont défaits parce qu'il y a des super bonnes personnes, même s'ils sont pour le pétrole puis ils votent à droite, c'est des bonnes personnes pareilles, puis ils m'ont aidé, puis je les ai adorés. Je sais pas si tu comprends.
J'étais
en train de... pour moi, c'est ça, faire du cinéma, beaucoup plus que d'arriver sur un plateau puis mettre ma caméra qui est là. C'est tout ce qu'il y a autour qui me passionne.
Ouais. On a parlé beaucoup de Sarah Michara. Elle avait fait Norbourg. Je ne sais pas si elle a fait tes autres films.
Elle a fait tous mes films.
C'est ça. Est-ce que là,
30 ans, 29
c'est à la
ans,
vie à la mort. Toi, tu ne peux plus travailler avec une autre directrice photo.
Je peux pas... Tu sais, le cinéma, c'est une industrie où est-ce que... il y a des tensions, il y a beaucoup de tensions. Je veux dire, je m'engueule avec Sarah, là. On s'engueule. On s'engueule pas. C'est pas engueuler.
On a des différends.
Ben, c'est sûr. Je veux dire, le cinéma, c'est ça. Je veux dire, c'est. Tu sais, puis je sais qu'on est dans un air de l'empathie, puis
bienveillance.
La bienveillance sur les plateaux de tournage, oui. Mais c'est un peu de la bullshit. Dans le sens que un plateau de tournage, même les plateaux les plus bienveillants, il y a du monde qui s'y déteste. Parce que il y a de la tension, c'est stressant, t'es fatigué, tout le monde a son ego, de la mauvaise communication. Fait que c'est sûr, dans n'importe quel bureau, de toute façon, même chez les fonctionnaires, il y a du monde qui s'aime pas. Fait que, tu sais, un moment donné, là, on essaye que tout le monde... Mais c'est sûr, quand moi et Sarah, des fois, on a de la petite friction. On en a eu une fois sur ce film-là. C'est tout à fait normal. Une fois par shoot. C'est comme, après, peut-être qu'une année, elle va s'écœurer de faire des films avec moi. Moi, je ne m'écœure pas parce qu'on communique tellement facilement, visuellement. On pense pareil. On n'a pas besoin de parler pendant des heures sur ce qu'on veut faire. On est comme une seule personne. C'est ça.
C'est ça.
On s'engueule. On est une personne qui s'engueule. On s'engueule.
Y a-tu cette appréhension-là, justement? Tes films au Québec, c'est quand même une grande famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le sais un peu comment va être Christine Beaulieu, comment va être Martin dans Félix Émera. Martin Dubreuil, puis tout. Mais là, t'es comme, là, Micah, Troy, les autres, j'y connais pas. Ils vont être talentueux. Ils vont-tu être le fun? Ça va-tu être vivant ou c'est tout le monde dans son trailer? Puis t'es pas obligé de parler contre eux. Va-tu être le fun, ce shoot-là?
C'est une autre dynamique.
Premièrement, c'est une dynamique. Tu sais, je travaille avec toutes les mêmes personnes que depuis le début, à peu près. Costumière, Patricia McNeil, monteur, peu importe. Puis sur le plateau, je connais tout le monde. On se connaît tous. Puis tout le monde est quand même, tu sais, je parlais de bienveillance, empathie, il y en a une, tu sais, on s'aime tous, mais il y a des conflits, mais on s'aime tous. Et quand tu arrives sur un plateau, je pense que quand les Américains arrivent sur des plateaux comme ça, ils n'ont pas le choix d'embarquer. Bien sûr, il y en a sûrement qui n'embarquent pas, mais on a quelque chose des Québécois qui font en sorte que... Hein? Mais il y a comme on n'est pas ici, on est ici pour faire de l'art, du cinéma. C'est pas une business. Il y a comme quelque chose qui se passe okay. que...
Ça s'impose un
le,
peu.
Le machino, le grip, l'électro, l'assistant de production, tout le monde est passionné. Tout le monde, ça paraît. T'sais? Fait que les comédiens sont comme, OK, là, je m'en viens faire de l'art. Là. Je m'en viens pas créer. Je suis là pour les bonnes raisons. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui doivent être plus difficiles que d'autres. Genre Chia Leboeuf qui a tourné à Montréal, c'était l'enfer. Ouais. C'est une autre affaire. Lui, il a des problèmes. Mais Micah, c'était vraiment une trooper. Il est arrivé, puis pas du tout compliqué. Elle était là.
Elle est dans toutes les scènes.
Toutes les scènes. C'était difficile. On tournait de nuit, jamais chialé. Troy, il était adorable. Je veux dire, tu connectes avec Troy en 30 secondes. C'est impossible de ne pas l'aimer. Micah aussi, tout le monde aimait. Et Hélène Hunt, c'est sûr que c'est une plus grosse pointure. Puis moi-même, j'étais beaucoup plus nerveux.
Mais elle a été là une journée. Non?
Une journée, puis elle est arrivée la veille. Moi, je l'ai rencontrée. J'avais parlé par Zoom plusieurs fois, mais la première fois que je l'ai vue, là, c'est dans la roulotte avant qu'on tourne. T'sais. Fait que c'est autre chose. Fait que... Mais t'imagines, t'arrives sur un plateau, une journée, tu sais pas là, qui ces gens-là. Fait que c'est plus dur pour quand t'arrives une journée. Mais vraiment, ils ont été super. Je pense que Denis amène ça à Denis Villeneuve, là, on revient à lui parce que puis moi, ça n'a rien à voir avec lui. Lui, il travaille avec tous les plus grands de ce monde. Mais je pense que lui, puis Patrice Vermette, puis son équipe de Québécois, il amène ça sur des plateaux. Jean-Marc faisait la même chose avec ses DOP québécois. Un moment donné, je tournais avec le DOP Yves Bélanger, puis il recevait des textos, je me souviens plus du genre de Nicole Kidman, ou puis il parlait de perte avec. Je sais pas, il y a comme quelque chose, ils n'en reviennent pas. Les Américains, je pense, ils n'en reviennent pas de comment on est à l'aise. Il n'y a pas de bullshit avec les Québécois.
Mais c'est peut-être aussi, je pose la question, je ne suis pas là-dedans, je suis comme en périphérie, mais. T'sais, comme tout le monde fait ses classes au Québec avec notre cinéma qui, pour le meilleur, pour le pire, est financé et tout, ben, y a pas cette dynamique-là nécessairement de rentabilité, de performance, de les producteurs sont sur le plateau, puis c'est peut-être que c'est ça qui impacte.
Exactement. On est protégé d'une certaine façon, le Québec, par tout ce marché très capitaliste du cinéma américain. Puis quand on fait des films ici au Québec, on est très choyé d'avoir cette chance-là de pas avoir à faire 200 millions de box-office, de pas... Mm-hmm. Tu sais, soit tu fais des films du cinéma d'auteur, tu espères aller à Berlin, Locarno, Cannes, on l'espère. Mm-hmm. Soit tu fais des films de box-office, puis, tu sais, des Trogi, il fait des bons box-office, et j'aime ses films. Je sais pas ce qu'on... Ouais. On a vraiment une chance. Okay. Puis je vais souvent à l'Université Concordia, entre autres, pour parler aux jeunes cinéastes, puis je leur dis, vous savez pas à quel point on est chanceux de faire des films au Québec. Et au Québec, parce que c'est pas la même chose en Ontario. Là. Ils ont moins d'argent, ils ont moins de... On est libre ici. Là. Une fois que ton scénario il a été accepté...
C'est ça. Oui, il prend 8 ans là, avant que tu puisses le tourner, mais...
Oui, mais à Los Angeles, il prend aussi 8 ans pour les gens qui sont c'est pas ça. Comme Denis whatever. Là,
c'est ça, oui. Guillermo del Toro, ça va plus vite quand il veut faire un film, mais il y en a plein.
Mais tu sais que Pete Anderson a de la misère à se faire financer, là.
Ouais, parce que là, t'as l'edge de tes films coûtent 100 millions, mais il en rapporte 40. Fait que là, on fait
exactement.
Quoi que ça? C'est des lettres de noblesse, mais... Ouais,
exactement.
Ouais.
Pete Anderson, là, il a vraiment... Il fallait que ce film-là soit un succès monétaire. Ouais. Parce qu'il était rendu à un point où est-ce que, supposément que...
Il y a juste Nolan qui a comme réussi à transcender ça, de faire des films d'auteur qui rapportent 900 millions.
Denis Villeneuve.
Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais.
C'est Denis Villeneuve, c'est incroyable.
Et toi, comme réalisateur, pour In Cold Light, quelle scène ou quelle séquence a représenté un plus grand défi qui a été plus dur à tourner?
Ah oui, c'est
juste des séquences de chevaux, des affaires de même? Ou...
Ben, c'est un film que à peu près toutes les scènes ont été difficiles à tourner, même celles qui paraissent simples. Mm-hmm. Les animaux, les bébés, la nuit, le temps de tournage, le sang... Ça a été chaque scène.
Il y a beaucoup
de
lieux aussi, là, c'est ça?
Il y a beaucoup de lieux, il y a énormément de lieux. Puis c'est tout a été compliqué dans ce film-là. Même les scènes qui paraissaient vraiment. Tu sais, la scène, il y a une scène avec de dialogue pendant 5 minutes, chant contre chant, avec Troy Kotsur.
Avec la lumière qui
s'allume, c'est ça, la lumière de
avec l'œil magique, là.
Ouais, exactement. ça paraît pas, mais c'est très compliqué à faire parce qu'il faut amplifier la vraie lumière. Donc, il faut que les gars, ils pèsent au bon moment. Tu sais, les techniciens, ils pèsent au bon moment.
Puis là, t'as une caméra, fait que tu filmes deux, trois fois de différents angles, ouais, que ce soit raccord.
Fallait que j'explique aux comédiens, c'est à ce moment-là que tu lèves le bras. Puis là, hey, les techniciens, c'est à ce moment-là que vous allumez la lumière. Tu sais, puis... Mais aussi... Tu tournes pas de la même façon avec quelqu'un qui est en langage des sourds. Tu peux pas tourner un plan très très large, puis tu peux pas tourner un gros plan. Tu vois pas les mains.
C'est toujours en plan cowboy.
C'est un plan américain. Ouais. Je veux dire, moi, ça, j'avais pas pensé à ça, là, mais un moment donné, j'étais comme, hey, ben, ça va être champ contre champ, plan américain, puis ça va être ça. Là. Des fois, tu as des gros plans quand tu as des réactions où est-ce que c'est juste les yeux, tout ça. Mais tu sais, donc, même ça, c'était un défi parce que pour moi, faire du champ contre champ, tabarnan, ça, c'est plate. J'ai l'impression de faire anti-gang là, ou whatever. Là, fait que, tu sais, mais je pense qu'on a réussi à créer une tension dans cette scène-là d'une autre façon avec la lumière. Ouais. Puis,
ben oui, c'est full créatif, c'est génial. Ben, je pense qu'on va arrêter cela durée de temps, mais Maxime, t'es fantastique. On parlerait de toi encore et encore. T'as-tu un prochain projet quand même? C'est chiant de dire ça, ton film sort, mais c'est comme, mais la suite,
oui,
c'est quoi?
Non, j'attends le refus de SEDEC et Téléfilm. Okay. Très bientôt, là. Je suis à mon deuxième dépôt. Si on l'a, tant mieux, merci. Mais avec Métafilm, donc Sylvain Corbeil, un film sur une histoire vraie, sur un ancien ministre péquiste, et les journalistes de Radio-Canada qui sont allés en Roumanie interviewer un pasteur dissident à l'ère de Ceausescu. Okay. Et ça a été une des raisons pourquoi il y a eu la révolte et la révolution, la chute du régime. Ouais. Et ces deux Québécois.
Ah, ça a l'air d'un petit film facile à tourner.
Non, ça va être vraiment très compliqué aussi.
OK. Ouais. Fait que bonne chance avec ça. On va être au rendez-vous pour discuter pour aller voir le film.
Ouais. Ouais, merci. Merci beaucoup.